Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons la Ligue contre le cancer des Landes. Et oui, c'est juin vert ce mois-ci. Nous avons le docteur Philippe Rémuson, président de la Ligue contre le cancer des Landes, et Emma Berland, chargée de prévention, qui sont avec nous dans le studio aujourd'hui. Comment allez-vous tous les deux ?
Très bien, merci.
Assez bien, sauf que je suis un peu handicapé de la voix, mais il paraît que vous avez trafiqué,
oui.
Donc je prie les auditrices et les auditeurs de m'excuser.
C'est pas grave. Du moment qu'on comprend ce que vous dites, c'est l'essentiel. Tant que le message passe, on est là pour ça. On va passer donc une heure ensemble, on va découvrir cette nouvelle campagne de prévention sur le sujet essentiellement du cancer du col de l'utérus. On va d'abord écouter le flash info national et international. On se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti. Donc nous sommes de retour avec Emma et Philippe de la Ligue contre le cancer. Donc on se voit régulièrement, on change de couleur à chaque fois. Aujourd'hui c'est vert, on en voit de toutes les couleurs avec vous, j'ai envie de dire. Bon, ça on vous l'a fait souvent, je sais, mais bon, je l'ai pas la loupé quand même. Alors Emma, ça fait un petit peu de temps que vous avez rejoint l'équipe. Alors comment ça se passe ?
Très bien, très bien.
Oui.
L'été arrive, donc voilà, on fait de la prévention aussi solaire cet été qui va commencer.
Voilà, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu avec Philippe, parce que c'est vrai que c'est ça marche l'hiver aussi, les UV d'ailleurs.
De toute façon.
Malheureusement, c'est là, voilà, aujourd'hui, on va parler essentiellement du cancer du col de l'utérus et du papillomavirus. Il y a un lien, elle est étroite entre les deux, en fait, apparemment. Et donc, c'est la nouvelle campagne. Alors, c'est quoi le programme ce mois-ci ?
Alors là, juin vert est consacré donc au troisième dépistage organisé qui existe en France pour l'instant, après le colorectal et le sein, et donc pour le cancer du col de l'utérus, qui touche environ 3100 personnes par an quand même. Responsable, selon les chiffres, de 900 à 1100 décès. Donc, c'est pas non plus une fréquence énorme, mais on a les moyens, avec ce dépistage, justement, diagnostiquer des formes précoces qui vont pouvoir être traitées et guéries plus facilement, comme dans tout dépistage. Donc, juin vert est le mois de la promotion de ce dépistage du cancer du col de l'utérus.
Bien sûr, alors on est toujours dans la prévention, c'est toujours la même histoire. Hein. Bon, on va répéter les choses qu'on dit à chaque fois, mais mieux vaut prévenir que guérir. Là, ça, je crois que ça résume un petit peu l'intérêt de toutes ces campagnes. C'est que voilà, et le dépistage, mais voilà, c'est d'avoir l'information, de savoir. C'est pas faire l'autruche, c'est de tiens, je vais faire une petite. On a pas mal parlé du cancer colorectal. On peut éviter tellement de morts d'une manière tellement facile, simple, rapide et gratuite. Ça fait un peu mal au cœur de ne pas le faire, du coup. On est un peu là pour faire passer ce message. C'est dommage. Alors, de quoi on parle exactement, ce fameux cancer du col de l'utérus ? Alors, ça touche quelle population ? Bon, ça touche majoritairement des femmes, bien entendu. Voilà. Mais au niveau...
Très majoritairement. D'ailleurs, c'est une réaction très masculine que quand on parle notamment, on va y revenir, de la vaccination contre le papillomavirus qui est donc impliquée dans la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus. La gente masculine a dit... C'est pas nous.
Oui, voilà.
Donc, voilà. En fait.
C'est vrai qu'au début, ça, la campagne de vaccination ne concernait que les
jeunes filles. Les jeunes filles,
au départ. Oui, voilà. On va parler de la vaccination, justement. C'est une science, c'est pas de la cuisine.
Donc, c'est un dépistage qui s'adresse, bien évidemment, exclusivement à des dames qui ont un col de l'utérus, en plus.
Voilà, c'est ça. Non, mais surtout, ma question, c'est de se reporter surtout sur la tranche d'âge, la population, bien entendu, et pas le genre. Ça,
c'est de entre 25 et 65 ans.
Ouais.
Et donc, il y a deux parties dans le dépistage, entre 25 et 30 ans.
Oui.
On va avoir deux premiers frottis à un an d'intervalle. Ça, c'est un examen cytologique. Mmh. Donc, on regarde s'il y a des cellules qui sont atypiques.
Mmh.
Et s'ils sont négatifs, c'est le frottis qu'il y a à faire 3 ans plus tard. Mmh. Et là, on va chercher le HPV. Et à partir de 30 ans, c'est tous les 5 ans. Et c'est une analyse biologique.
D'accord. Alors, ce fameux frottis, bon, c'est fait par un gynécologue, c'est lui qui,
oui,
qui
fait sage-femme,
ça. Ou une sage-femme,
ou
voilà.
Un médecin qui,
il y a plusieurs praticiens, ça peut être déjà le médecin généraliste, généraliste, hein, si le médecin généraliste s'investit dans ce genre d'examen et qu'il a suffisamment de temps pour le faire. Le médecin généraliste en premier lieu, les spécialistes gynécologues et Dieu merci les sages-femmes pour renforcer le pool qui va en se réduisant des gynécologues, les laboratoires qui peuvent faire ces frottis sur une ordonnance faite par un médecin généraliste, donc autant de professionnels de santé qui peuvent faire cet examen de dépistage qui est quand même assez particulier, qui a une relation à l'intime très importante.
Oui. C'est pour ça que je savais pas que les généralistes faisaient parfois ce genre d'examen. J'imaginais ça moi bêtement, le spécialiste qui... Voilà.
Non, il y a des généralistes dans la formation d'un médecin, ça fait partie de la formation d'un médecin généraliste. Après, il y en a qui s'investissent plus ou moins dans ce genre de pratique, je dirais, quotidienne, mais ça dépend du temps, de la patientèle, etc. Du désir aussi des patients d'adhérer avec le médecin généraliste.
C'est vrai qu'on disait, ce lien à l'intime, peut-être qu'une patiente n'a pas forcément envie que ce soit son médecin généraliste qu'elle voit tous les jours qui fasse ça, parce qu'elle préfère... Ça, je le comprends, je comprends cet aspect psychologique. Ceci dit, on en a parlé pas mal pour le cancer de la peau, etc. Les généralistes aussi, ils sont pas mal investis dans le diagnostic avec les dermatoscopes, parce qu'on manque de spécialistes.
Un médecin généraliste...
Les spécialistes en tout.
C'est un métier très difficile où ils doivent connaître tout un tas de choses.
Oui, c'est vrai. Bon, voilà, donc ils font ça aussi. Alors ce cancer, c'est combien de cas, vous disiez, par an?
3100 l'incidence par an d'un nouveau cancer du col de l'utérus. C'est vrai qu'à une époque, ils étaient révélés à un stade trop tardif.
Oui.
Alors là, on a des chiffres de mortalité qui varient en fonction des sources, mais disons que le maximum de décès se situe aux alentours de 1000-1100 décès par an.
D'accord.
Ce qu'on pourrait éviter avec le dépistage, bien évidemment.
Oui.
Ce qui n'est pas négligeable. C'est pas les mêmes chiffres que pour le cancer du sein et le cancer colorectal, c'est pas négligeable. Avec un examen qui est facile de réalisation, quand même. Et qui permet aussi de déceler des états précancéreux aussi. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que on va y revenir avec le lien étroit qu'il y a, le lien très intime qu'il y a entre le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus, mais pas que. On verra ça tout à l'heure. Et il est certain que cette détection du papillomavirus dans le dépistage du cancer du col est un grand progrès justement pour dépister des lésions précancéreuses, faire un suivi de personnes qui sont atteintes par ce papillomavirus et agir au bon moment pour éviter des traitements trop lourds par la suite.
Si je comprends bien, quand on fait un frottis, donc on récupère des cellules sur le col de l'utérus. On fait pas seulement une recherche de cancer, de cellules atypiques, on vous disait, mais aussi on regarde s'il y a le virus est là, dans la place.
Alors en fait, comme disait Emma, de 25 à 30 ans, c'est de la cytologie, c'est-à-dire qu'on va examiner des cellules pour voir s'il y a des cellules anormales. Si le test est positif, on va faire à ce moment-là la recherche du HPV de 25 à 30 ans. Sinon, la recherche systématique du papillomavirus ne se fait qu'à partir de 30 ans, comme Emma l'a dit. Après 3 ans, si les frottis précédents ont été normaux, et tous les 5 ans. Alors, il y a juste des cas particuliers où il vaut mieux le faire de façon plus fréquente. C'est les personnes qui ont été soumises au distilbène, par exemple.
Ah oui.
Elles ont plus de risques de faire des cancers du col de l'utérus et notamment des cancers... plus grave, qu'on appelle des adénocarcinomes à cellules claires. Et donc là, la recommandation est plutôt d'un examen tous les 3 ans.
D'accord.
Et puis il y a les personnes immunodéprimées chez oui. lesquelles il oui. faut avoir un rythme plus soutenu mmh. dans le dépistage. Mais c'est pas la majorité, bien oui, évidemment, bien sûr, puisque hein. le dépistage, vous le savez, s'adresse toujours à des populations standards, tout venant. Et encore que l'organisation du dépistage du cancer du col de l'utérus est un peu particulière par rapport aux autres dépistages. C'est qu'elle s'adresse certes à une tranche d'âge de 25 à 65 ans, mais les personnes qui ont déjà une culture d'aller se faire dépister oui. spontanément ne seront pas forcément invitées à ce dépistage.
Oui.
C'est un petit peu compliqué dans l'organisation.
D'accord. Alors, ce distilbène, alors, on s'est mis quelque chose, le nom, je ne me rappelle plus trop. C'est quoi ? C'était un médicament ou c'est un polluant ?
C'est un estrogène qui était donné aux femmes enceintes pour leur éviter des fausses couches et qui a été responsable de malformations, de cancers dans les générations à venir des femmes qui ont été sous distilbène pendant leur grossesse. Et donc, les femmes issues de cette lignée de femmes qui ont été soumises au distilbène peuvent le faire à plusieurs générations des cancers du col de l'utérus et doivent être plus particulièrement surveillées.
Très bien. On va faire déjà une petite pause musicale et puis on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et c'est reparti avec la Ligue contre le cancer. Alors, on parlait donc de ce fameux cancer du col de l'utérus. Alors, c'est quoi les facteurs de risque ? Qu'est-ce qui nous donne plus de chances ou de malchances de le développer ?
Surtout, on a parlé du distilbène et des personnes qui sont immunodéprimées. Et puis, il y a le tabac qui revient à peu près partout.
C'est bizarre, hein ?
Oui, très bizarre. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui va venir baisser les défenses immunitaires. Et il y a des facteurs aussi qui augmentent la vulnérabilité. Donc, par exemple, c'est la multiplicité des partenaires qui va faire en sorte qu'on est plus vulnérable, des rapports sexuels à un âge plus précoce et notamment le fait de ne pas être vacciné au HPV. Et
oui, voilà. Alors j'allais dire, là, si on a parlé vachement de facteurs extérieurs, est-ce qu'il y a un facteur en dehors du contexte pour aussi beaucoup ce cancer, genre, c'est-à-dire génétique, c'est-à-dire le coup de pas de bol, je le développe quand même. Parce qu'on a pas mal parlé là de causes extérieures, est-ce qu'il y a aussi une partie juste génétique
Ma connaissance, il n'y a pas trop de familles à cancer du col de l'utérus et d'implication génétique à proprement parler, transmissible. Après, on sait que ce cancer est le cancer du col de l'utérus est en lien avec le papillomavirus humain, donc HPV en anglais, et que on a en plus du dépistage cette vaccination qui permettrait de, comme dans certains pays, d'éradiquer le cancer du col de l'utérus en vaccinant les adolescentes et les adolescents. Le lien est très étroit avec ce papillomavirus et la vaccination, même si elle a ses détracteurs, vient compléter le dépistage qui, lui, doit être maintenu, même si on est vacciné, ça, entre parenthèses, on y reviendra peut-être.
Il faut le dire.
C'est pas parce qu'on est vacciné qu'il faut pas se faire suivre et se faire dépister.
Bon, la bonne nouvelle, du coup, que ce soit pas mal de facteurs extérieurs, ça veut dire que la prévention joue énormément son rôle, du coup. Ça veut dire que vraiment, on peut pas dire que j'y peux rien. Parce qu'on peut vraiment se prémunir. Et ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. On peut faire quelque chose.
D'autant plus que, quand même, le papillomavirus est quelque chose d'assez répandu, malheureusement.
Et oui, voilà.
Plus de 80% de la population est atteinte, que ça se transmet pas forcément par un acte sexuel, que ça peut être des simples contacts, certes intimes, mais des contacts. Donc, et ça, c'est difficile à faire comprendre, d'ailleurs. Quand on fait de la vaccination, parce qu'on nous a dit de vacciner avant le premier acte sexuel, mais ça n'a rien à voir, ou pratiquement rien à voir, même si l'acte sexuel est lui-même peut être générateur de la transmission, bien évidemment. Mais quand on vaccine les garçons, moi, alors j'implique le comité des Landes dans cette vaccination dans les collèges. Personnellement, en tant que médecin retraité, l'ARS a fait appel à ses médecins retraités pour faire ses campagnes de vaccination dans les collèges sur le secteur d'Aqua assez large, je dirais. Et c'est pas non plus un taux de participation faramineux, mais c'est une petite pierre à l'édifice et qui permet une information sur la vaccination HPV auprès des parents et qui va après découler là de nouveau vers le médecin généraliste qui peut vacciner, le pharmacien qui peut vacciner, les sages-femmes, etc. Toute une partie du personnel soignant au sens large qui peut être le vecteur de cette vaccination.
Alors ce fameux HPV, comment est-ce qu'on on sait qu'on l'a, parce que effectivement il a l'air assez invisible, silencieux. Moi ça me fait penser un petit peu à la toxoplasmose, la maladie du chat. C'est-à-dire on le découvre quand on doit faire des analyses, par exemple quand on est enceinte, voilà. Donc on se rend compte, ah mince, ça fait partie d'une vacherie qu'on peut avoir sans s'en rendre du tout compte. Hein, pas toujours, hein, mais des fois il peut se développer, il peut vraiment développer une maladie propre à lui-même.
Alors en fait le HPV donc est très très répandu. Il y a 200 sous-type de papillomavirus.
Ah oui.
Et dans la vaccination d'ailleurs, ce qui est intéressant, et auprès des collégiens, moi, c'est un argument que j'utilise, c'est qu'il y a deux types de HPV, le 6 et le 11, qui sont impliqués dans les simples condylomes ou les verrues, les mal placés, des choses comme ça. C'est quand même 50 000 cas par an chez les femmes, 50 000 chez les hommes, donc c'est pas négligeable. Et la vaccination va protéger contre ce type d'inconvénients.
Ah oui, aussi,
et puis il y a les autres sous-types, les génotypes, dont les plus agressifs oncogènes sont le 16 et le 18, qui sont dans le vaccin et qui protègent effectivement contre le papillomavirus, qui est impliqué dans d'autres cancers que le cancer du col de l'utérus.
D'accord.
Et qui peut toucher donc des hommes d'ailleurs.
Oui.
On pourra revenir sur les types, le nombre de cancers liés à ce papillomavirus.
D'accord. Alors moi la question que je me pose c'est le mode de contamination. Qu'est-ce qui contamine? Parce que donc, je comprends bien qu'un rapport sexuel, comme par exemple le sida, ben voilà, je crois que c'est dans la semence. Hein, il peut être dedans, ou est-ce que c'est la surface de la peau, puisque même un contact intime, qui ne soit pas forcément un contact sexuel, peut le transmettre. Il est à la surface de notre peau, il est caché où
Plutôt dans la sphère génitale quand même.
Après,
il est présent, puisqu'il occasionne des cancers ORL, il peut être dans les muqueuses en général, dans les muqueuses en général aérodigestives, mais c'est plutôt la sphère génitale, notamment pour le cancer du col de l'utérus quand même. Hein.
Voilà. Bien sûr, d'accord. Donc il est caché en tout cas. Il est bien caché.
Il est bien caché. Alors après, il faut informer nos auditrices et nos auditeurs que c'est pas parce qu'on est porteur d'un papillomavirus qu'on va faire un cancer forcément, et qu'on peut normalement, spontanément l'éliminer, mais que la vaccination aide bien à l'éliminer aussi, quand même.
Oui, moi c'est vrai que donc 80% de la population est porteuse sans s'en rendre compte en fait, hein, voilà. Donc et alors quand lui il développe sa maladie, on peut avoir une maladie. Enfin, il y a des atteintes visuelles, des cloques, c'est quoi, c'est
Alors déjà, il y a des verrues qui peuvent survenir n'importe où, alors qui peuvent être gênantes dans la sphère génitale, mais qui peuvent être sur la peau en général. Mais ça, bon, on en vient à bout assez facilement avec des traitements, même s'il faut les répéter. Mais un papillomavirus qui est présent, par exemple, dans la sphère génitale de la femme, va mettre du temps à éventuellement créer une lésion et une lésion qui va venir précancéreuse, etc., etc.
Oui.
C'est pour ça que il y a des programmes maintenant bien établis pour les spécialistes, sages-femmes, gynécologues, médecins aussi généralistes, de conduite à tenir face à la présence de ce fameux HPV dans un frottis dans le cadre du dépistage. À partir du moment où on a décelé un papillomavirus, ça implique une surveillance pour savoir si justement il persiste, s'il est plus agressif parmi les génotypes et s'il persiste au-delà d'un certain temps à plusieurs examens d'intervalle à ce moment-là pour agir sur ces lésions précancéreuses par exemple. Ouais, pas... ah, je dirais qu'il peut se passer 10 ans avant de fabriquer un cancer du col de l'utérus lié à un papillomavirus.
Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, dans la prévention, etc., il ne faut pas attendre que des symptômes soient présents. Il faut prendre les devants pour s'en prémunir, justement. On va faire une deuxième pause. On va écouter le flash info local, un petit peu de musique. Et on se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission. Et voilà, c'est la dernière partie de cette émission. Alors donc, oui, on m'avait parlé en antenne de Mimizan. Il s'est passé quelque chose à Mimizan.
On a fait une intervention d'information avec la CPTS Côte d'Argent. Mmh. Et nous, voilà, pour essayer d'inciter notamment les jeunes, parce que c'était un mercredi, donc il y en avait pas mal, à se faire vacciner. Et s'il était à comprendre aussi de quoi ça parlait, cette vaccination, voilà, à se faire dépister. Pour les femmes, donc voilà, une autre intervention qui va se passer plutôt mercredi à la MSP de Castets.
D'accord.
En tripartite avec un pharmacien et une sage-femme et la Ligue, où on parle justement de dépistage, de vaccination, tous ensemble.
Voilà. Alors les jeunes, comment est-ce qu'ils reçoivent tout ça, c'est vos campagnes, ce discours sur les vaccinations, sur la prévention, etc. Parce que, voilà, on en a parlé un petit peu en antenne, voilà, tout le monde le sait, voilà, il y a des gens qui sont un peu réticents, notamment sur les vaccins, etc. On imagine plutôt des gens d'un certain âge qui soient réticents, mais les jeunes, en fait, comment ils reçoivent tout ça, vous leur dites, ils vous croient, ils font confiance à la science, c'est quoi votre vision de...
Alors moi, je n'ai que la vision par rapport au collège.
Oui.
Mais l'entrée en matière, c'est de savoir déjà contre quoi on les vaccine, et quelquefois ils ne savent même pas, ou s'ils ont reçu une injection, ils ne savent même pas ce qu'on leur a fait.
Oui.
Et c'est quand même intéressant. Enfin, la première demande qu'on leur fait, c'est de savoir s'ils sont d'accord pour être vaccinés et s'ils en ont discuté avec leurs parents, etc.
Oui.
Souvent, ils ont eu une information quand même de l'infirmière scolaire ou du professeur de sciences de SVT, des choses comme ça, qui permettent quand même d'aborder le sujet et de mieux comprendre. Mais c'est vrai que quand on leur propose cette vaccination, c'est une proposition, et que s'ils veulent pas, ils veulent pas.
Bien sûr.
C'est eux qui restent maîtres de la situation.
C'est normal.
Même si les parents ont donné l'autorisation.
Oui, oui.
Voilà. Mais c'est vrai que quand on leur explique, ils reçoivent ça, à part le spectre de l'injection et de la piqûre, surtout de l'aiguille, qui cause plus d'effets secondaires qu'autre chose.
Oui, voilà. C'est ça. Oui, je comprends bien. Oui.
Mais cette information est importante et passe assez bien, moi, dans l'expérience que j'ai vis-à-vis des jeunes. Et notre campagne antérieure, tous vaccinés, tous protégés, je pense, a eu quand même un certain retentissement et une certaine adhésion de la jeunesse à ce genre de vaccin. Et puis, le monde médical a évolué par rapport à ça, alors qu'il était un petit peu sur la réserve au début.
Oui.
Maintenant... a compris que c'était un enjeu de santé publique.
Oui. Il faut communiquer.
Voilà.
Il faut communiquer. Hein. Oui. Encore une fois, je le dis à chaque fois, voilà, la prévention. Voilà. Et donc, le chiffre, je ne sais plus, mais moi, je crois que c'est en discutant avec mon médecin traitant, il m'avait dit que c'était quelque chose de l'ordre peut-être de 1 euro en prévention, c'était 8 euros d'économiser en soins, en fait. Hein. Bon, alors la proportion n'est peut-être pas exacte, mais en fait, il y a vraiment un gap énorme.
Ce qu'on peut dire, que malheureusement, mais, sans faire trop de politique, mais c'est qu'on est beaucoup axé, et Dieu merci quand même, sur le soin, et qu'il serait temps peut-être d'être un peu plus axé sur la prévention. Parce que justement, ça éviterait peut-être des dépenses importantes.
C'est ça, c'est un investissement pour l'avenir, la prévention.
Voilà, Mais c'est un travail de longue haleine et qu'il faut remettre sur le métier.
Et voilà, c'est pour ça que vous revenez régulièrement. Voilà. On aura peut-être une émission sur le cadmium, tiens, parce que ça aussi, c'est pas mal ça. Hein, pour le... Non, mais parce qu'on avait discuté des fois de l'augmentation de certains taux de cancer qui étaient un peu étonnants, dont on ne voyait pas forcément la cause. Ça peut faire partie peut-être des causes qui étaient un petit peu invisibles, tout ça. Hein.
Oui, après, reste à savoir à quoi on est vraiment exposé. Et ça, les mesures vont être un petit peu sujettes à caution quand on sait déjà que nos agriculteurs ne savent même pas eux-mêmes quel est le taux de cadmium qu'ils utilisent dans certains engrais. Donc, voilà. Bon, on va finir préparer cet aparté pour revenir oui. à notre juin vert.
Tout à fait, c'est juin vert d'ailleurs, comme la couleur, la couleur de la nature en ce moment tant qu'elle n'est pas trop cramée. Hein. voilà, et donc, j'allais dire aux auditeurs et aux auditrices, on a quand même la chance d'avoir à disposition d'un vaccin qui peut éventuellement éviter d'avoir un cancer. Bien sûr, ça ne remplace pas le dépistage régulier, même si on est vacciné, mais ce serait vraiment dommage de ne pas s'en servir. Hein.
Donc si vous êtes dans la tranche d'âge, faites-vous vacciner, et après, faites-vous surveiller, dépister, et voilà.
Très
et
bien.
Être suivi, prendre soin de soi, c'est le message de la Ligue global. Contre le cancer.
Voilà. Alors, je ne sais pas, je suppose qu'on se revoit en rose la prochaine fois, c'est ça, en octobre tout on fait la pause estivale un petit peu.
Oui,
enfin, vous, peut-être pas d'ailleurs.
Non.
Nous, on a une petite étape avec Septembre en or sur les cancers de l'enfant, qui est beaucoup moins connue.
Ah oui.
Mais qui est une toute petite étape dans les Landes, malheureusement.
D'accord.
J'aimerais bien qu'elle se.
Développe,
mais bon.
Très bien. Bon, on se verra peut-être en septembre, alors, faut voir. On va en parler. Ben, merci beaucoup, tous les deux, d'être venus.
Beaucoup.
Voilà,
merci,
ben, c'est toujours important de parler de tout ça, parce que. Voilà.
Merci aux auditrices et aux auditeurs.
Voilà, de nous supporter nos blagues, des fois. Voilà. Allez, au revoir.
Au revoir.